On parle souvent du monde invisible et si on y réfléchit, si on n'est pas assez informé, disons assez fort, eh bien on peut être perturbé et avoir peur. Ce monde invisible existe-t-il? Ben oui, parce que je suppose que ce sont tous les êtres qui vivent autour de Dieu. Et puis donc, je peux être rassuré, car je pense aux anges qui sont les serviteurs de Dieu, les messagers de Dieu, mais je crois que certains se sont révoltés. Et eux, bien, ils sont plutôt au service de Satan, du menteur, du séparateur, effectivement, et qui ne veut pas du bien. Alors, ce monde invisible est partagé en deux, et nous, notre position, quelle doit-elle être vis-à-vis de ce monde invisible?
Il y a quelques descriptions dans la Bible qui nous font entrer dans ces réalités. Je dirais que de manière générale, la lettre aux Éphésiens nous fait rentrer dans ce monde invisible. Mais par exemple, le livre de Job nous montre qu'à un moment donné, devant l'Éternel Dieu, il y a Satan qui vient et que l'Éternel lui parle. Et tout à coup, il y a l'Éternel qui va dire à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job?
Job.
Et donc c'est Dieu qui attire l'attention de Satan sur Job et Satan va faire du mal à Job. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Oui, puis moi j'ai une autre
Hein?
réflexion. Quelle fréquentation pour Dieu?
Eh oui, c'est curieux, hein? Un autre passage qui est très explicite, c'est dans 2 Chroniques 18, quand le roi Josaphat, roi de Juda, va voir le roi Achab, roi d'Israël, qui est un mauvais roi, et alors que Josaphat est un roi fidèle, et Achab veut faire la guerre. Et donc il veut faire quelque chose de méchant, qui n'est pas bon. Et donc il fait venir des prophètes. Et le prophète Michée raconte ce qui se passe dans ce monde invisible et comment est-ce qu'à la suite de la demande d'Akab, il y a des esprits qui viennent être un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Alors c'est très intéressant de voir un peu ces textes bibliques qui nous décrivent en quelque sorte les cieux ouverts. Hein, où on voit un peu ce qui se passe dans ce monde invisible.
Ça grouille.
Et comme vous dites, il ne faut pas qu'on en ait peur. Alors, le Nouveau Testament nous dit, par exemple, Hébreux 1, 14, que les anges sont des esprits qui administrent les choses qui concernent ceux qui vont hériter du salut. Donc, les anges s'occupent des enfants de Dieu et ils les aident. Alors il y a une action angélique qui peut se faire par une action intérieure. Je peux entendre des voix, par exemple, qui vont me dire « Tiens, tu pourrais aller voir un tel » ou « Tu pourrais ne pas aller voir un tel » ou etc. Je peux aussi être protégé matériellement par des anges, hein, qui sont des personnes qui prennent corps. Alors il y a un joli film de Frank Capra qui s'appelle La vie est belle, pas celui de Benigni, hein, de Frank Capra, qui est un vieux film
Oui.
des années 60 et qui montre le ministère angélique. Et donc voilà, c'est une réalité, il y a un ministère angélique et il y a également un ministère démoniaque. Et c'est surtout là-dessus que je voudrais attirer notre attention dans ce petit quart d'heure que nous passons ensemble.
Oui, c'est ce qu'on appelait, enfin, ce qu'on peut appeler encore, mais ce n'est plus très à la mode, les anges gardiens.
C'est ça.
Voilà.
Oui. Oui.
C'est rare maintenant qu'on parle de votre ange
Oui,
gardien.
oui. Mais il y a un film de Luc Besson qui s'appelle Angel A. Et je crois qu'il y a un autre film sur les anges gardiens qui est sorti il y a quelques années.
Oui, un film
Hein?
allemand, oui.
Voilà. Et donc, d'un côté, les anges gardiens, les anges, qui sont des esprits et qui ont cette capacité de prendre un corps, mais qui ont aussi cette capacité, qui sont dans le monde invisible, qui sont autour de nous et qui nous regardent et qui nous observent et qui nous parlent. Et qui nous, dans un sens, qui nous servent, qui font des choses en notre faveur. Mais d'un autre côté, il y a également des anges qui se sont révoltés contre Dieu et qu'on appelle des démons.
Alors pourquoi sont-ils révoltés?
Ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas.
Ah.
Ils se sont révoltés. La Bible ne dit pas pourquoi est-ce que
Oui.
ils se sont
Une
révoltés, mais
histoire
c'est un fait.
de pouvoir, de jalousie entre eux.
Oui,
Bon,
alors
mais bon,
on a une
passons.
description de Satan, de Lucifer. hein, en Ésaïe 14, en Ézéchiel 28, et où on voit qu'il était un être créé, un chérubin, un ange particulier, qui était splendide de tout ce qu'il y avait en lui, autour de lui, avec même le riche son de ses luttes et de ses tambourins, hein, était en toi au jour où tu as été créé, nous dit Ézéchiel 28. Et donc, et il est dit, par l'abondance de ton trafic, tu t'es élevé. Et donc, l'orgueil a habité ces anges. Mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé. On a très, très peu de descriptions. Mais par contre, on sait que l'ensemble de ces démons constitue un monde invisible qui est adversaire. Et donc, ce qu'il faudrait, face au monde invisible, c'est bien comprendre finalement comment Dieu nous appelle à nous comporter et où sont les ponts entre le monde visible et le monde invisible. Alors, je vais essayer d'être très simple, et je compte sur vous pour qu'on donne quelque chose de suffisamment clair et simple à ceux qui nous écoutent.
Mon ange gardien va faire ce qu'il faut.
Amen. Et donc, le pont, c'est la vérité et le mensonge. Chaque fois que je crois au mensonge et que j'affirme le mensonge, j'établis un pont avec le monde invisible adverse.
Oui, c'est une alliance que je fais avec le monde invisible adverse.
Voilà. Dans Éphésiens 4, 27, Dieu va nous dire « ne donnez pas occasion au diable ».
Oui.
Dans 1 Timothée 5, 14, Paul va dire donc à Timothée que celles qui tiennent des mauvais propos, il parle des jeunes veuves, donnent occasion à l'adversaire.
Oui, donc disons, pour ne pas donner l'occasion au diable, c'est d'être, de discerner et ne pas suivre, évidemment, ce qu'on aurait envie de faire.
Absolument ça. Et dans cette lettre aux Éphésiens, Paul va utiliser une image qui est, à mon avis, très explicite. C'est l'armure du chrétien.
Ah oui.
Cette armure, elle a 6 pièces. Alors, inutile de dire que je ne sais pas, si on est en guerre, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas son armure ou sa panoplie, il serait tout à fait vulnérable. Est-ce que nous sommes armés face au monde invisible? C'est ça la grande question.
Ben, je crois que oui, avec l'armée dont vous allez nous parler.
Voilà, mais à votre avis, si on posait dans nos églises la question aux chrétiens, qui est-ce qui connaît l'armure du chrétien?
Ah.
Qui est-ce qui répondrait à ça?
Mais je ne sais pas.
Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en aurait pas beaucoup, oui.
Donc, cette armure du chrétien, elle comporte 6 pièces. 6 pièces, c'est 2 fois 3. Les 3 premières sont pour nous rendre forts. Et les 3 suivantes, ou les 3 dernières, sont pour faire face à l'ennemi qui n'est pas la personne qui est en face de nous, mais qui est l'esprit qui est
oui,
en face de
oui,
nous.
Oui, oui, oui.
Alors, 3 et 3. Et les 3 premières et les 3 dernières sont symétriques. Donc c'est assez facile de s'en souvenir. On va essayer d'être simple et d'en parler un petit peu. La première chose, et tout tourne autour de la vérité et du mensonge. Mettons que les 3 premières pièces, c'est d'avoir la vérité en soi. Et les 3 dernières, c'est de refuser le mensonge.
Défendre contre le mensonge.
Voilà, le mensonge étant l'arme de l'ennemi.
Mmh.
Hein, le monde invisible nous fait douter et voudrait nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors, les 3 premières pièces. La première pièce, c'est la ceinture de la vérité. Alors, c'est sûr que dans nos armures modernes, la ceinture de la vérité, la ceinture, on ne sait pas si un soldat a une ceinture, mais bon, on pourrait dire aujourd'hui qu'il y a une ceinture avec des balles, des explosifs, avec un couteau, avec... voilà, la ceinture. La ceinture, c'est ce qui se met au niveau des reins. Et quand...
Pardon ? Ça vous permet de tenir droit.
C'est ça. Et voilà. C'est ce qui nous fortifie le dos, en fait. Et c'est ce qui permet d'avoir une stature forte. C'est la ceinture de la vérité. C'est-à-dire que chaque fois que je crois la vérité et que je rejette le mensonge, je me fortifie. Alors là, il y aurait beaucoup à dire avec des exemples. Par exemple, chaque fois que je dis « je ne suis pas capable », s'il n'y a qu'à moi que ça arrive, voilà, ça recommence, je ne peux pas me changer, on ne se refait pas, personne n'est parfait, l'herbe du voisin est plus verte, etc. Ce sont des mensonges. Donc, première pièce, c'est la ceinture de la vérité.
La ceinture qui rend fort.
Deuxième pièce, c'est la cuirasse de la justice. Alors, ce n'est pas très compliqué. C'est qu'il faut faire ce qui est vrai.
Oui,
c'est-à-dire que
sûr.
Dans la mesure où je fais ce qui est vrai, je suis juste. Parce que être juste, c'est la justice, c'est l'arbitrage de Dieu par rapport à la vérité. Dieu regarde ce que je fais, et si c'est vrai, il me dit que c'est juste.
Mm-hmm.
Donc la cuirasse de la justice, c'est ce que je fais. La ceinture de la vérité, c'est ce que je pense vrai. La cuirasse de la justice, c'est je fais vrai.
Oui.
Et la troisième pièce, c'est les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. C'est-à-dire que je vais dire vrai.
Voilà, c'est clair. Oui.
Je récapitule, je pense vrai, je fais vrai, je dis vrai.
Je dis vrai, d'accord.
Les, 4, 5, les pièces 4, 5, 6, c'est le bouclier de la foi, première, quatrième pièce, le casque du salut, cinquième pièce, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, sixième pièce. Je ne vais pas prendre de temps parce que le temps passe très vite, mais simplement dire que la quatrième pièce, c'est ne pas penser faux, résister aux pensées fausses, le bouclier qui permet d'éteindre les dards enflammés du méchant.
Oui.
La cinquième pièce, c'est ne pas faire faux,
oui.
Le casque du salut,
oui,
être sauvé dans la décision de la tête.
Mm-hmm.
Et la sixième pièce, c'est dénoncer ce qui est faux, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Oui, oui.
Et vous vous rendez compte que finalement, pour avoir ne pas avoir de mal face au monde invisible, il faut cultiver la vérité en nous et dénoncer la vérité autour de nous. Le mensonge. Dénoncer le mensonge autour de nous. Alors, est-ce que quelque chose reste compliqué ?
Non, ça me paraît clair et c'est rassurant de savoir qu'on a une armure pour lutter. Et si on fait bien la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est vrai vient de Dieu et ce qui est faux vient du diable, quoi.
Alors, je voudrais donner quelques exemples concrets qui nous permettent de vraiment de toucher du doigt et de préciser ces choses. Dans une journée, je crois qu'un chrétien se fait avoir quantité de fois. Il se fait avoir quand il dit « je ne peux pas aimer mon prochain » ou bien « celui-là n'est pas le prochain que je dois aimer » ou bien « il vaut mieux être seul que mal accompagné » ou bien « c'est encore à moi que ça arrive » ou bien « il fait mauvais aujourd'hui » ou bien « je ne peux pas m'empêcher de mettre du gruyère sur mes spaghettis alors que j'ai déjà un surpoids évident » ou bien « je ne veux pas aller à l'église parce qu'en fait, dans l'église, il n'y a rien de bon », etc., etc. Chaque fois que je pense ça, je participe à mon propre mal, à ma propre souffrance.
Mmh.
Donc il faut que je comprenne que dans le monde invisible, il y a tout un tas de personnes non humaines, hein, des anges et des démons, mais que les anges veulent m'aider à comprendre ce qui est bien, comme l'Esprit de Dieu, mais les démons aussi sont là pour masticoter ou pour être en quelque sorte ceux qui vont m'aider à penser mal.
Mmh.
Alors si vraiment je veux penser mal, si vraiment je veux cultiver la haine en moi,
quitter l'armure.
Alors Dieu autorise le démon à venir m'aider à faire le mal.
Dieu c'est quand nous même... abandonnerait comme ça.
Il nous abandonne pour qu'on prenne conscience par la souffrance qu'on va s'infliger finalement de ce mauvais rapport au monde démoniaque et du fait de le rechercher lui seul et la vérité qui en découle.
Donc il ne faut pas négliger la présence de ce monde invisible qui est en fait une lutte entre le bien et le mal avec Dieu comme arbitre.
Quelquefois j'entends les gens et je vais complètement dans le sens de ce que vous dites, dire « Satan m'attaque ».
Oui.
Alors, si je comprends que Dieu, justement, a sous lui, sous sa maîtrise complète, le monde démoniaque ne peut rien faire sans que Dieu ne l'autorise.
Mmh.
Alors, dire « Satan m'attaque », ça peut être une vérité, mais ça peut être aussi un mensonge. Ça peut être une vérité si je dis « Satan m'attaque, mais il est dans la main de Dieu et ça doit m'être utile ». Ça peut être un mensonge si je dis « Satan m'attaque, mais j'en ai peur.
Mmh. » Je laisse faire.
Mmh. Et donc, et je suis découragé parce que quelque part, je vais penser que, que je suis un peu démuni face à Satan. Mmh. Alors qu'il est dit « résister au diable
oui. »
et il s'enfuira de vous. On devrait donc travailler, avoir un rapport au monde invisible, ange et démon qui soit correct.
Mmh.
Hein, dans Colossiens, Paul rappelle qu'il y en avait quelques-uns qui rendaient culte aux anges Il ne faut pas leur rendre culte. Il ne faut pas les servir. Il ne faut pas les rechercher. Il ne faut pas rechercher à être en relation avec eux. Et puis, il faut avoir un rapport à la vérité qui soit un rapport selon Dieu. Hein, et donc, je crois que c'est sur cette expression qu'on va conclure. Hein, rechercher toujours, avoir un rapport à la vérité qui est tout à fait sain.